Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, tous les soirs, une heure, avec un ou une artiste, ce soir le peintre Guillaume Bresson.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Guillaume Bresson.
Il y a des corps que l'on reconnaît, des corps qui surgissent et se rappellent à nous. Tout à l'heure, dans un coin sombre du premier tableau, on détaillait une silhouette de femme portant quelqu'un sur son dos ou se battant avec. Et voilà la silhouette, quelques pas plus loin, autre tableau, autre format, plus détaché et plus clair. La femme apparaît différente, elle a migré et elle raconte une autre histoire. Car c'est autant de récits que de peintures dont il est question dans votre exposition actuelle, Guillaume Bresson, à la Galerie Obadia, tout près du Centre Pompidou à Paris. Vos toiles ne portent pas de titre, c'est dire la relation qu'elles entretiennent avec la représentation. On y voit, quand il y a des forêts enneigées, des cols de montagnes franchis par les migrants. Quand il y a de grandes vagues, on pense à celles qui les voient mourir. Quand il y a des lignes fines tracées sur du blanc, on pense à de joyeuses parties de football nocturne sur l'esplanade des Olympiades, Paris 13e. Mais on se trompe peut-être, alors on va voir. Bonsoir à vous, Guillaume Bresson.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Cette exposition est visible, elle est en entrée libre jusqu'au 29 juin. Vous travaillez depuis combien de temps maintenant à New York et plus du tout du côté de Paris ou du sud de la France ?
Alors ça fait 3 ans maintenant que je suis à New York, dont 1 an à temps complet. Et voilà, j'y suis allé au départ pour une résidence, je suis resté 6 mois, je suis revenu en France, puis j'ai eu envie de repartir. Voilà, j'ai trouvé des conditions de travail qui m'ont plu, donc j'ai fait mon visa d'artiste et puis je suis resté travailler là-bas.
Et qui sont lesquels ? Parce que évidemment ou pas, je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose, on y reviendra, de l'ordre d'un récit qu'on suit, d'une histoire, peut-être quelque chose de moins construit que ça, mais en tout cas de quelque chose qu'on suit dans cette exposition. Et je me demandais à quoi ça peut ressembler d'abord dans un atelier ? À quoi ça ressemble cette exposition avant qu'elle n'existe ?
Ben, en fait, l'exposition, elle ressemble un peu à l'atelier. J'ai montré au même niveau les études, les photos qui m'ont servi à faire les tableaux, et les tableaux eux-mêmes, les petits comme les grands formats, voilà, en jouant avec, en les mettant en relation, un peu comme je fais dans mon atelier justement pour les fabriquer, quoi.
C'est propre comme ça, ça existe.
Oui, chez moi, dans mon atelier, c'est assez propre puisque je fais attention à la poussière et donc je peux pas, voilà. J'ai pas l'atelier comme Bacon avec des trucs partout, non.
Quand vous dites que vous avez mis et accroché, on y reviendra, c'est plusieurs choses comme ça sur le même plan. On entend bien que c'est sur le même plan de valeur, un plan aussi qui est symbolique. Ça venait de quelle idée, de quel désir pour vous ?
C'est de vous, enfin, moi je vis dans mon atelier aussi et je travaille tous mes tableaux en même temps. Et du coup, enfin, moi il y a beaucoup d'étapes préparatoires dans mon travail parce que c'est des compositions qui sont préparées à l'avance avec des photos sur Photoshop puis ensuite sur des études, et donc en fait toutes ces étapes là du travail que d'habitude restent cachées, quoi, qu'on montre pas, ont des qualités esthétiques aussi propres, et au bout d'un moment je me demande pourquoi je pourrais pas aussi les montrer. Puisque voilà, quand on montre un tableau fini, on a effacé beaucoup de choses qui étaient aussi intéressantes. Et voilà, donc maintenant, en ce moment, j'essaye de reprendre un peu tout ça, tous les éléments de mon travail, et de les réarticuler, de les mettre sur le même niveau. Enfin, j'essaye des choses, voilà, notamment avec la photo, où j'ai toujours travaillé d'après photo, et j'ai jamais montré de photo, alors que finalement, il y a des choses qui sont très bien à montrer telles quelles. Et donc, je commence en ce moment à travailler une technique de print,
avec des transferts, les, on voilà, peut dire un
qui,
peu ce
qui
que c'est.
Qui est une technique de transfert sur toile où on colle en fait une photo imprimée sur la toile et ensuite on expulse le papier avec de l'eau et il reste que l'encre en fait sur la toile. Et donc, comme on l'expulse à la main, le papier, ça laisse des traces sur la photo et du coup des morceaux de l'image qui disparaissent. Et voilà.
Et avec ce genre d'effet, par exemple, on peut se rapprocher de choses qui ont été contrecollées directement sur des murs, dans la rue, par exemple, juste pour donner une idée plastique aux personnes qui nous écoutent.
Ça garde un côté brut. Il y a un côté brut qu'on retrouve un peu dans le collage d'affiches et voilà, dans la quelque chose de mural, ouais, comme ça.
Quand vous dites que vous allez jusqu'à dévoiler plusieurs étapes de votre travail, je pense notamment à deux petits formats dans la seconde salle de l'exposition, deux très beaux formats qui moi m'ont fait penser à des coins de photographie surexposés un peu ratés, qu'on dit un peu ratés, et ça donne simplement des formats de couleurs. Est-ce que c'est ce que vous avez été chercher ?
Ces tableaux-là, ils sont, enfin ces photos, elles sont en fait des agrandissements. Des recadrages d'une image sur laquelle j'avais laissé traîner mon doigt. Et du coup, y a l'idée voilà, de recadrer la partie que normalement j'aurais coupée, dont je ne me serais pas servi. Et aussi l'idée d'un morceau de l'image qui est caché, puisque c'est avec d'autres tableaux qui sont sur un peu cette idée-là, qui prennent pour sujet la représentation elle-même. Et de montrer ses limites, ce qu'on montre, ce qu'on cache. Enfin, voilà. Donc, ces petits tableaux-là, en fait, c'est quand on les regarde, on ne sait pas. Ça fait c'est quasi abstrait.
C'est vraiment une étude de couleur. C'est
ouais,
juste
voilà.
Voilà,
du coup,
c'est vraiment
plus
un ressenti de couleur.
Ça devient une couleur. Et puis très agrandi, donc pixelisé aussi. Il y a quelque chose d'un peu comme ça impressionniste dans les couleurs. Et pour moi, symboliquement, c'est aussi le rapport du corps, puisque c'est mon corps qu'on voit sur la photo, un petit bout de mon corps, voilà, devant l'image. Donc,
À vous écouter, on peut considérer que c'est un geste peut-être inverse des premières choses qu'on pouvait voir il y a un peu plus de 10 ans, à savoir vraiment un tableau parfait, où vous n'êtes pas du tout là, en tout cas pas là avec des traces de vous. Il n'y a pas du tout d'espèce de Photoshop dans notre tête, alors que là, oui, on peut presque voir des réglages d'obscurité, de luminosité. On a
de
vraiment
seuil.
Cette expérience-là, ouais, de seuil, de calque même, pour qui a un tout petit peu utilisé Photoshop. On peut presque imaginer des détourages,
ouais.
Alors que si on se penche sur votre peinture d'il y a quelques années, on était face à une sorte de véritable classicisme d'une certaine manière.
Oui, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que déjà à l'époque, j'étais étudiant, j'avais pas Photoshop, donc je travaillais avec des
pas de logiciel piraté en tout cas.
Pas de logiciel piraté, et puis je travaillais avec des photos que je découpais à la main. Et que ensuite je faisais des photomontages sur papier quoi, et ensuite avec des calques. Mais déjà j'utilisais des calques et tout, un peu comme dans Photoshop on fait. Et donc je il y avait pas cet aspect qui ressortait. Et depuis j'ai beaucoup utilisé ce logiciel et il y a vraiment des choses qui maintenant font partie de ma pratique que j'utilise comme ça sans le savoir, mais qui sont très déterminants en fait pour la forme finale des tableaux. Et plus ça va, plus ces formes là en fait je les aime pour ce qu'elles sont aussi, et du coup je les laisse apparaître dans les tableaux finis.
C'est pas un dévoilement qui dit que ce sont que des étapes, c'est aussi un dévoilement qui dit que peut-être, en tant qu'étape, elles sont des œuvres à part entière.
C'est ça, et puis c'est aussi une façon de parler de ce que c'est que de construire une représentation, c'est-à-dire qu'il y a des... Même quand c'est très très réaliste, c'est toujours quelque chose qui est reconstruit. Enfin, dans mon cas, dans mon travail, ça a toujours été, même quand les tableaux étaient très très classiques, ça a toujours été le produit d'un travail de découpage du réel et puis recomposition et ensuite de peinture, quoi. Et ça, c'est assez important quand même de le dire,
puisque ça n'a jamais été une peinture qui était réaliste.
Non, voilà, c'est ça. C'est pas une peinture que je peins, par exemple, sur le motif, ni une peinture que je peins d'après une photo que je reproduis comme dans l'hyperréalisme, mais c'est en fait le produit de plusieurs manipulations, de découpage d'images, de parties que je peins d'imagination, et une sorte de synthèse comme ça de plusieurs temps, de plusieurs sources, qui constituent à la fin une représentation, une narration. Et donc, il y a une complexité quand même là-dedans, qui au départ était cachée, mais c'était pas une volonté de le cacher, c'était que comme moi j'étais j'avais des références assez classiques au départ, naturellement un peu je peignais comme ça.
Mais... Alors que là, ça pousse les choses, en tout cas une pensée de la représentation un tout petit peu plus loin, puisque ça le désosse, quoi.
Ça le désosse et ça montre aussi ce que c'est un point de vue aussi, du coup. Un point de vue autant sur le plan visuel, mais aussi sur le plan social, puisque dans mes tableaux, il y a quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup une représentation du monde social. C'est des interactions, des lieux, des corps. Et quand on peint une scène de violence ou n'importe quel sujet, on la peint toujours depuis un point de vue particulier. Et je peins des gens qui ont eux-mêmes leur point de vue sur le monde. Et du coup, c'est un télescopage comme ça de point de vue. Et c'est aussi important de le rendre sensible, je pense.
Quand on dit c'est important de dire d'où on parle, pour vous, ce serait important de dire d'où vous peignez.
Oui, oui, oui.
Je redécouvre en ce moment avec un plaisir merveilleux la peinture à l'huile. Et cette peinture à l'huile, dont beaucoup disent que c'est réactionnaire, d'autres qui disent que c'est dépassé, etc. Je pense que cette espèce de matière qui devient translucide, cette espèce de pâte qui devient dont la trace reste, donne une expression qui m'est chère. Je tiens à dire aussi que c'est un métier, la peinture, qui est un, et je me plais à le dire, à le répéter, que ce soit auprès de mes amis ou auprès de mes étudiants, c'est un métier qui se fait lentement. C'est quelque chose qui est extrêmement lent à venir. Et je crois que je me méfie toujours de tout ce qui est maquillage dans la peinture. Vous savez, la petite chose qui fait que, ah mon Dieu, ça va être joli, je vais le laisser. Il est certain que la peinture, c'est pour moi avant tout ce souci d'organiser un espace. Mmh. C'est, et puis de prendre plaisir à le reprendre, à le détruire, à le recommencer, à le modeler. Et cette espèce de perpétuelle attention qu'on porte sur son propre travail, cette espèce de surprise. La peinture est une surprise perpétuelle.
C'est Henri Guibal, peintre au micro de Michel Chapuis en 1988 sur France Culture dans l'émission Peintre et Atelier. Guillaume Bresson, il commence par parler de son choix ou de son amour, son goût pour la peinture à l'huile. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est exprimé pour vous? Est-ce que vous êtes tourné vers ça?
Quand j'ai commencé à faire de la peinture sur des tableaux, oui, j'ai tout de suite utilisé ça parce que c'était plus pratique. Pour représenter des volumes, donc un espace, donc une profondeur, donc la possibilité d'articuler des plans entre eux, et du coup tout le reste qui s'ensuit, la composition, la mise en scène, donc il y a ce côté pratique, mais c'est aussi d'un point de vue sensuel, c'est quelque chose de très très agréable à manipuler. Et aussi, ça permet de travailler longtemps, comme il dit. C'est si on a besoin de travailler beaucoup une toile, c'est quand même assez pratique quand on travaille dans le frais, disons, d'avoir quelque chose qui sèche lentement.
Pourquoi vous dites ça? Pourquoi c'est pratique de travailler lentement? C'est pas des choses qu'on entend souvent par les temps qui courent.
Disons que c'est pratique quand, enfin, moi, dans mon cas, pour arriver à réaliser les compositions, quand même où il y a des objets qui sont traités en volume, il faut faire du modelé, il faut faire des fondus, et du coup c'est beaucoup plus facile quand on a le temps que quand il faut que ça soit fini
tout de suite.
Dans le sens
où ça sèche pas tout de suite.
Oui, parce que quand on utilise d'autres techniques comme l'acrylique ou la peinture, d'autres peintures à l'eau, ça sèche en quelques minutes. Donc il faut soit peindre par couche, soit peindre en aplat. En fait, ça dicte presque le style du peintre, quoi. À un moment donné, ça devient une contrainte. Là, moi, j'avais besoin d'une technique qui me contraignait pas trop, en fait.
Et qui vous laisse du temps de la travailler, finalement,
qui me laisse
cette
du
peinture.
Temps, ouais, 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 ouais.
Tout à l'heure, vous disiez, je travaille plusieurs toiles en même temps. Ça veut dire que vous les faites, quoi, monter dans l'atelier simultanément, trois toiles, quel qu'en soit le format, qui progressent?
Oui, c'est ça. Déjà, bon, il y a le temps de séchage de la peinture à l'huile qui impose aussi des temps morts dans le travail. Donc pendant qu'il y en a une qui sèche, je peux travailler l'autre, et ainsi de suite. Mais aussi, j'ai des séries que je commence, que je finis pas. Il y a des choses qui sont plus expérimentales que après je laisse tomber ou je laisse un peu de côté puis je reprends quelques mois après. Donc il y a tout un tas de choses en cours dans l'atelier, dont certaines qui montent aussi, effectivement en même temps un peu. Enfin, c'est une organisation de travail quoi qui que je suis obligé de faire parce que c'est...
Et qui est instinctive ou qui est vraiment planifiée comme...
Non, c'est instinctif parce que moi j'essaye de pas planifier. D'ailleurs, ça fait un peu paniquer les gens avec qui je travaille en général. Jusqu'au dernier moment, je sais pas du tout ce que je vais montrer ou pas, quelle forme aura l'accrochage. Je me laisse vraiment jusqu'au dernier moment pour articuler les choses entre elles, quoi. Ce qui va être plus ou moins avancé ou laissé tel quel. Il y a beaucoup de décisions qui se prennent au fur et à mesure et qui construisent l'exposition. Et quand je montre l'exposition, je sais pas du tout en fait ce que je suis en train de montrer. C'est après. Avec le temps, après, je reviens dessus, je réfléchis et je peux commencer à en parler.
Mais par contre, vous savez qu'il faut le montrer à ce moment-là. C'est-à-dire que vous savez peut-être pas ce que vous montrez, mais vous savez que les travaux sont suffisamment finis ou à un stade d'équilibre qui vous permet de les montrer, les sortir
c'est ça,
de l'atelier.
Ouais. Et c'est l'articulation qui joue beaucoup. C'est comment je les présente les uns par rapport aux autres qui est problématique et qui se règle vraiment au dernier moment. En fait, il faut quand même que l'étoile et qu'il y ait quand même tout ce que je montre, il faut que je sois quand même assez sûr d'avoir envie de le montrer quand même. Donc faut qu'il y ait déjà un gros travail derrière de fait quand même. Ça peut pas être n'importe quand. Disons que je me sers de la date du vernissage ou du début de l'exposition comme moment de pression extrême où je suis obligé de trouver une solution.
Oui. Quand on a parlé du choix de la peinture à l'huile, vous avez très vite rapporté... l'idée de peindre des espaces, Guillaume Bresson, d'organiser des espaces, de peindre des plans. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation à ça, justement, qui est un tout petit peu nouvelle dans l'exposition que vous proposez là, à la galerie Nathalie Obadia? Vous avez quoi comme relation avec l'espace de manière générale et les espaces que vous peignez?
Alors j'ai toujours eu, même dans les autres expos, c'était déjà présent. Par exemple, il y avait les grilles de perspective étaient déjà là dans l'expo d'avant, mais elles étaient recouvertes de couches de peinture plus ou moins transparentes qui les laissaient plus ou moins apparaître. Cette fois-ci, je les ai laissées complètement à découvert.
Et encore avant, étaient complètement recouvertes.
Voilà, ouais. Après, j'utilise pas toujours des grilles de perspective. C'est vraiment une série de peintures que je fais à partir de ça. Pas pour essayer de faire un espace réaliste comme ça a pu être le cas dans le passé de l'histoire de l'art à la Renaissance, mais c'est plus pour moi c'est une série plus symbolique sur la représentation de l'espace, l'espace social, qu'est-ce que c'est que une structure sociale et comment les corps s'organisent par rapport à un espace déterminé de façon presque autoritaire comme ça. Et parce que c'est quand même une façon de représenter l'espace qui est plutôt dépassée quoi dans l'histoire de l'art, la grille de perspective. C'est utilisé maintenant surtout pour en infographie par exemple ou dans les jeux vidéo ou dans la représentation en 3D. Voilà, mais dans des choses qui sont toujours soit ancrées dans le social comme l'architecture, soit dans la narration, dans l'animation 3D, les jeux vidéo et tout ça. Donc j'ai essayé de me réapproprier cette forme-là, mais de l'utiliser d'une façon différente, enfin avec un sens différent.
Et alors quand vous les choisissez, quand ils sont encore perceptibles, ces espaces-là, ces décors, je ne sais pas si c'est le bon mot, vous les choisissez comment?
Alors quand c'est ça dépend des tableaux, parce que dans l'exposition là, il y a quand même plusieurs pistes qui sont montrées en parallèle et. Et quand je pars d'une grille de perspective, c'est vide et je commence par dessiner un peu comme ça d'imagination des débuts d'architecture, des pylônes, des murs, des portes, des choses comme ça. Et par rapport à ces morceaux d'architecture, je dispose des corps. Donc il y a une idée comme ça de corps qui sont un peu
presque très interdépendants de l'espace dans lequel ils
se
trouvent.
C'est ça. Il y a un côté un peu de déterminisme comme ça du corps par rapport à l'architecture, mais du coup qui renvoie aussi au déterminisme social, ce qui est important pour moi. Et Et donc, voilà, moi, il y a beaucoup de tableaux où c'est vraiment l'espace qui impose au corps sa loi, quoi. Ou l'espace architectural, mais ça peut être aussi la lumière, par exemple, ça peut être un clair-obscur dans un coin d'obscurité, une lumière violente à un endroit qui impose une sorte d'atmosphère qui produit un certain type d'action.
Comment les corps sont en fait agis, pas tant par eux, mais par la peinture de lumière, d'espace, de pylônes, de parking, de McDo, par ce que vous décidez de mettre comme déterminisme spatial, quoi, ou plastique, ou d'image.
Ouais, parce que moi, quand je le construis, c'est plastique. Je me dis pas, ah tiens, là c'est un McDo, donc je vais mettre tel type de personne dedans, puis ensuite je vais aller chercher ce type de personne que je mets dans la scène. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est moi, comme je suis peintre, je travaille des compositions. Donc c'est une logique pratique, purement pratique. Je regarde ce qui fonctionne. J'ai une image, je l'associe avec une autre. Ça marche pas, je jette. Et puis quand ça marche, je fais. Et puis après, je rajoute quelque chose, j'enlève, je rajoute. Et puis ça se construit comme ça, un peu au fur et à mesure, à l'instinct, quoi. Et après, ce que je peux en dire, c'est toujours a posteriori. J'ai jamais d'intention consciente de ce que je vais faire.
Vous cherchez.
Je cherche. Alors je prends tout en photo. Dès que je suis dans un endroit, je prends une photo, je vois une lumière ou une architecture ou une couleur ou quoi, je prends. Ensuite, je fais mes recherches, je prends aussi des choses sur Internet. Le travail le plus important pour moi, c'est celui que je fais avec les modèles, puisque pareil, au fur et à mesure des rencontres, je demande aux gens, soit de mon entourage, soit, par exemple, là, j'ai travaillé pour cette expo avec des collégiens du collège François Villon à Port-de-Vanves, parce que j'ai eu l'opportunité en fait d'aller prendre des photos pendant la récré au collège. Et du coup, je me retrouve avec un groupe d'une trentaine d'adolescents. Et puis alors voilà, je leur dis, bon, bah, allez-y, faites comme si vous étiez en récré, et puis vous me proposez un peu...
Ils disent la récré, les collégiens de Port-de-Vanves?
Enfin, moi, je dis la récré, mais je sais pas. Et puis, par exemple, j'ai travaillé dans une EHPAD récemment, et puis voilà, ou avec mes proches...
Puisque vous évoquez le clair-obscur, on va écouter Manuel Jauvert parler du Caravage.
Il a radicalisé le langage de l'ombre et de la lumière en durcissant énormément les contrastes, de façon à, alors, d'une part, faire saillir les corps de leur fond, les faire saillir avec une force, une puissance irrécusable, mais pas seulement. Il a radicaliser ce langage de façon à le charger d'une intensité dramatique, de toute une dramatisation de l'ombre. Et au-delà de ça, il y a le fait que ces corps et ces objets, passé la période claire des débuts, s'enlèvent sur fond sombre. Voilà, alors ça aussi, et systématiquement, dire ces fonds sombres qui sont des murs noirs, ou des murs vaguement, bon, sans rien dessus, ou des murs de ténèbres, ça c'est une chose qu'il a systématisée, qui existait peu avant lui, et qui fait partie de sa dramaturgie à lui. Et ceci n'est pas qu'un effet de style, c'est aussi le fait que du coup il évacue la perspective habituel, traditionnel, avec ses ouvertures sur l'extérieur, hein, et tous les éléments qui peuvent venir commenter l'action, tout ça. Lui, très souvent, voilà, il pose l'action comme sur une scène avec un rideau noir. Du coup, cette action est crûment éclairée comme ça, devient tout le sujet du tableau.
Manuel Jauvert, à propos du Caravage, dans l'émission Les Mardis de l'Expo en 2010. Alors Guillaume Bresson, évidemment, quand on entend parler du Caravage avec ces mots-là, des murs noirs, des murs de ténèbres, et qu'on vient de visiter votre exposition dans la galerie Nathalie Obadia à Paris, et qu'on connaît votre peinture, on voit des passerelles assez évidentes, peut-être qu'elles le sont trop. Vous avez quoi comme rapport avec justement cette histoire de l'art-là, ou cette peinture précisément?
J'ai toujours beaucoup regardé ça. C'est vrai que dans mes premiers tableaux, c'était pratiquement littéral. J'ai fait des emprunts de groupes de personnages. J'ai travaillé dans le clair-obscur aussi comme ça. Après, pour moi, c'est beaucoup... Moi, je pioche dans la peinture de toutes les époques pour surtout prendre des schémas de composition, quoi. Il y a des choses qui m'impressionnent et du coup, ça me reste dans la mémoire et j'ai tendance à les réactiver un peu comme ça, inconsciemment, dans ma pratique. Là, dans l'exposition, il y a une partie où même les murs de la galerie sont peints en noir. Et c'était aussi une manière de se séparer du reste, puisque là, on sort du monde social quelque part et on entre dans un espace un peu plus onirique peut-être, mais qui évoque toujours la réalité, mais d'une façon peut-être un peu plus distanciée. Et aussi qui vient entrer en confrontation avec la première partie qui est toute blanche avec ses grilles de perspective, donc très classique, très renaissance, puis très très aussi minimale, puisqu'il y a que des parties de personnages peintes en fragments comme ça sur un fond laissé blanc. Et d'un coup, on finit l'expo sur cet espace noir où là, ce sont voilà des corps qui chutent et qui chutent sur des fonds noirs qui sont des creux de vagues en fait. J'ai utilisé une photo que j'ai trouvée d'une vague que j'ai beaucoup assombrie et déformée sur Photoshop et j'ai utilisé le noir qui est le creux de la vague comme fond pour faire émerger des figures, un peu comme dans les tableaux de Caravage où finalement il compose par taches de lumière qui émergent du noir. C'est du coup, il sort d'une représentation classique narrative. Il y a une sorte de tension abstraite aussi qui est très présente et voilà. Je suis un peu retourné dans cette esthétique là dans cette partie de l'expo.
Mais aussi en vous écoutant comme une forme de, oui, de puissance de création depuis les ténèbres en fait, depuis le noir, depuis l'obscurité. Quand je disais tout à l'heure que moi, cette fin d'exposition et cette vague, j'ai pas pu m'empêcher, alors que je venais, il n'y a pas de titre, il n'y a aucun discours qui est porté dans cette exposition, mais j'ai pas pu du tout m'empêcher de penser à la mer comme le cimetière marin, comme l'endroit où reposent les corps morts des personnes qui ont décidé de quitter l'endroit où elles vivaient. Est-ce que c'est quelque chose qui juste appartient à notre imaginaire collectif et voilà, c'est tout, moi je rentre avec ça et c'est cette vague qui l'appelle? Ou est-ce que c'est aussi... vous avez aussi été pétri de ça pour peindre ces derniers tableaux?
C'est compliqué, c'est les deux. On ne peut pas échapper à l'actualité dans ce moment qui est quand même terrible. Mais en même temps, moi, de mon point de vue, c'était difficile de le représenter directement. Et donc, il faut trouver une façon de représenter les choses qui soit juste. Et c'est le plus difficile. On peut pas juste se contenter de dire « Ah voilà, j'ai représenté telle ou telle tragédie contemporaine. » Et puis, en prenant des photos empruntées à des journalistes qui étaient eux-mêmes sur place. Et puis ensuite,
mais vous cherchiez la représentation ?
Disons que c'est un mélange de plusieurs choses. Moi, ces derniers temps, j'ai été complètement bouleversé par ça. Et ça continue en ce moment, de plus en plus. Il y a des choses, enfin, il y a des crises pas possibles. Et c'est des choses qui se passent entre les États. Donc, c'est pour ça que le décor de la mer. Non seulement ça évoque la réalité pure, quoi, de cimetière marin, voilà, comme ça. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui est entre les États, qui est une sorte de non-lieu, enfin, un endroit comme ça où les gens sont, les corps sont perdus, quoi, et sont bloqués et peuvent pas passer, comme un peu dans la série des forêts aussi qui sont dans l'expo, où sont entre les villes, quoi, il y a ces endroits où les gens sont reclus parce que ils peuvent pas venir et du coup, c'est tellement terrible que quand on cherche à représenter ça, d'un coup, il y a une sorte de poids, de responsabilité par rapport à la représentation qui est très très lourd et qui impose de bien sentir, bien penser comment faire, quoi, comment représenter ça, comment.
Et donc, vous vous débrouillez comment de ce poids-là ?
Alors là, moi, j'essaye d'assumer ma position de quand même. Peintre, quoi. Voilà, je suis peintre et je suis pas là-bas. Bien sûr, je suis pas dans des conditions de vie comme ça. Donc, je représente mon point de vue, comment moi je me le représente, mon point de vue, mon imaginaire par rapport à ça. Et puis en même temps, du coup, voilà, dans le cas, là, de façon pragmatique, j'ai fait poser les gens de mon entourage, quoi, ma famille qui était là. J'aurais dit on va faire des. À la base, c'était pas une volonté de représenter ça. C'était vraiment, j'avais envie de peindre des chutes, des corps qui chutent. Et parallèlement, j'avais des corps de mer que j'avais déjà utilisés dans un tableau d'avant, qui est aussi dans l'exposition. Et en ayant ces deux choses dans l'atelier, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Je me suis dit, ah, d'accord, il suffit de mettre ça avec ça, et puis ça fait une évocation très puissante de ce qui se passe en ce moment dans la Méditerranée. Mais tout de suite, je me suis dit, attention, c'est quand même très très important de savoir où on met les pieds, de pas arriver comme ça, sans jamais y être allé, sans jamais voilà, avoir aidé même. Ça m'a beaucoup questionné, quoi. Justement sur comment je suis légitime à représenter tel ou tel sujet. Mais justement, je trouve que le pire, ce serait de pas le représenter. De dire, ah ben moi, c'est pas mon problème, j'y suis pas, je peux pas me permettre si, je peux pas.
Puis de toute façon, ce sont quand même deux endroits très différents. La question de l'action citoyenne et la question du travail de l'artiste et de la représentation, c'est deux choses en tout cas où les responsabilités, elles se jouent différemment.
Elles se jouent différemment, mais je pense quand même que quand on travaille la représentation, ça a un effet. Et cet effet, il ne faut pas le dénier. Et donc, il ne faut pas le faire pour éviter les effets, mais enfin, moi, dans mon cas, en tout cas, j'essaye de persévérer là-dedans, comme je l'ai fait pour les banlieues quand j'étais plus jeune, et d'assumer un rôle de travailleur de la représentation.
De la visibilité.
Et de la visibilité, ouais. Donc qu'est-ce qu'on rend visible, qu'est-ce qu'on cache, c'est un peu les thèmes qu'il y a dans la salle avec les grilles de perspective. Et quand on montre quelque chose, on cache tout le reste, et puis après, au-delà de ça, on choisit quand même qu'est-ce qu'on montre, quel type de personne on va montrer, quel âge, quel genre, quelle race, il y a toutes ces questions qui sont importantes, que moi je fais plutôt de façon inconsciente dans la pratique, quand je travaille ça, mais par contre je le réfléchis après beaucoup, en me posant des questions sur ce que j'ai fait avant, pourquoi moi, avec mon parcours, j'ai été amené à avoir envie de représenter ça plutôt qu'autre chose. Il y a toutes ces questions-là qui sont tout le temps là, quoi.
Je me suis intéressé dans l'invisibilité sociale vraiment à la construction sociale de l'invisibilité. Mais alors, je dirais que tous les processus d'invisibilité sont largement sociaux. Mais il y a différentes formes d'invisibilité. On peut être invisible lorsque on n'est pas justement retenu lorsque sa vie tout simplement ne compte pas, hein, n'est plus retenu dans quelque cérémonial que ce soit, y compris d'ailleurs jusqu'au cérémonial de mort. Après tout, les vies mortes, mais qui ne sont même pas pleurées, sont des vies qui sont littéralement maintenant inexistantes et qui donc deviennent invisibles radicalement.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Guillaume Bresson.
Words like violence break the silence, come and crashing in into my little world. Painful to me, breaks right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
Guillaume Bresson, juste avant ça, on entendait le philosophe Guillaume Leblanc au micro de Philippe Petit en 2009 parler de, de la construction sociale de l'invisibilité, peut-être pour s'attarder avec vous sur cette question-là. Juste avant, on évoquait le processus de la représentation comme rendre visible. Et vous disiez, qu'est-ce qui m'amène, moi, je suis en mesure de le penser après avoir peint, qu'est-ce qui m'amène à rendre visible des jeunes gens qui se bagarrent dans un parking ou deux jeunes femmes qui apparaissent comme ça, surgissent d'un tableau presque laissé blanc avec des lignes de perspective. Ça, vous les résolvez comment, ces questions-là? Vous avez toujours des réponses? Vous savez toujours pourquoi ce sont ces corps-là qui apparaissent et pas d'autres?
J'ai pas de réponse claire, mais moi, je me base toujours sur un peu l'analyse de mon propre parcours social et sur aussi ce que je sais de l'histoire de l'art, l'histoire de la représentation picturale. Qui est très lié à la représentation politique, toujours. Et donc, quels corps sont représentés dans la peinture, quels corps sont exclus de la représentation. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait une série sur les banlieues, mais j'avais pas ça en tête. C'était vraiment des amis à moi avec qui j'ai passé mon adolescence. Et pour moi, c'était complètement... c'était normal de peindre eux. Et
si les gens l'ont souligné, c'est peut-être parce que les gens ne les voient pas beaucoup.
Voilà, alors du coup, j'ai été étonné de la réception. Et d'un coup, ça a provoqué des réactions. Et parce qu'on n'a pas l'habitude, finalement, de voir... en tout cas, à ce moment-là, il y a 10-15 ans, on n'avait peut-être pas l'habitude de voir les jeunes de banlieue dans des tableaux classiques, dans de la peinture un peu légitime comme ça. On avait plutôt l'habitude de les voir dans des clips de rap ou dans la scène du hip-hop, du graff et tout ça. Et voilà, il y a peut-être un désir qui est lié au manque de représentation. Que finalement, il y a beaucoup de... Enfin, les catégories dominées socialement ne sont pas présentes, pas représentées dans l'art, dans la littérature, ou en général. Maintenant, c'est quelque chose qui change. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont attelés à ça, à représenter les minorités. Et c'est très bien, c'est quelque chose qui change, quoi. Mais moi, du coup, maintenant, je me pose toujours la question. Qui est visible, qui n'est pas visible, qui est caché, par exemple, là, je me suis posé la question, pourquoi on voit peu de personnes du troisième âge, des personnes âgées. Je suis allé photographier ma grand-mère dans son EHPAD en Picardie. Et donc, il y a des conditions de vie qui sont très difficiles, qui sont pas souvent... On en entend parler, quoi, dans les...
Mais jamais dans le détail.
Pas dans le détail.
On n'en entend pas parler dans le détail.
Ouais, c'est ça. Et puis, c'est pas souvent l'objet d'une représentation vraiment travaillée.
En photo, peut-être, parfois.
Peut-être en photo, ouais, c'est sûr. Mais en peinture, moi, je vais toujours chercher là où il y a du manque de représentation. Mais je pense pas que ce soit quelque chose de conscient que je fais pour, comme une sorte de recette... Mais c'est une question de désir aussi, à un moment donné.
Et c'est un manque qui est aussi votre manque personnel, vous pensez? Ça peut être un manque intime, vous n'avez pas assez vu, vous ne voyez pas assez votre grand-mère ou des corps ou des êtres équivalents dans des peintures ou vos copains de l'époque dans des peintures. Ça peut être aussi un truc très personnel.
Dans des peintures et représenté de cette façon-là aussi. C'est pas juste d'être dans une peinture, ça dépend aussi comment on le peint. Il y a ça qui est c'est égal, enfin, c'est aussi important. On peut peindre un jeune de banlieue puis de façon très expressionniste ou alors de le peindre presque en effaçant tous les détails et pour le faire devenir un corps générique. Et moi, au contraire, j'ai essayé d'aller dans le moindre détail, du coup de faire une peinture très très léchée qui permet de voir justement tout, c'est-à-dire les façons de s'habiller.
Bah,
les...
Par exemple, moi j'ai en tête quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est des équivalents de drapés pour des ensembles de jogging en fait.
C'est ça, puisqu'en fait ça existe. Dans la réalité, moi quand je vois un jogging Lacoste ou Adidas, il y a des effets de drapés qui sont exactement les mêmes que dans les Léonard de Vinci.
Des légères striures de coton élastique sur des chaussettes blanches passées par-dessus sur des baskets.
Voilà. Et tout ça, c'est des styles de vêtements, qui témoignent de goût, ça parle du goût du corps qui est représenté, et tout ça c'est des idées qui, pour moi, c'est, j'ai envie d'être transparent par rapport à ça, c'est-à-dire que j'ai envie de travailler avec quelqu'un qui me donne un peu son image, quoi, qui bouge pour que je prenne en photo, et qui du coup se laisse un peu aller à me donner des gestes, des postures, de montrer sa manière d'être, en fait. Et il vient avec ses propres vêtements qu'il a choisi lui-même, avec ses catégories de perception, et du coup qui doivent rester après dans le tableau. Je vais pas juste pour montrer ma touche un peu comme ça faire quelque chose de très synthétique et où il va rester qu'une silhouette ou quoi que ce soit. Non, pour moi, en tout cas dans cette série-là, tout était important à représenter.
Parce qu'on l'entendait dans la voix de Guillaume Leblanc, il s'agit aussi de formes de vie et de dignité donnée à ces formes de vie-là dans des processus d'invisibilisation sociale. Il y a l'idée qu'il y a certaines vies qui valent moins, tout compris, qui valent moins la peine d'être regardées, moins la peine d'être soignées, voire même moins la peine d'être enterrées ou chantées après leur mort. Est-ce que peindre, c'est une manière justement d'aller vers cette dignité-là ? Est-ce que c'est un acte que vous vivez de cet ordre-là ?
Oui, moi je pense que oui. Après, ça dépend comment on le peint, quoi. Enfin, c'est déjà de le faire rentrer dans le monde de la peinture, de faire rentrer quelque chose dans le monde de la représentation artistique en général. C'est quelque part le légitimer, mais aussi de le peindre en prenant tout son temps, en représentant, en essayant de le faire le mieux possible, même si pourtant se peindre bien, disons, le bienfait dans la peinture, c'est pas forcément valorisé dans le champ de l'art dans ce moment. Je me dis qu'il y a des choses plus importantes que les valeurs qui sont dans le champ de l'art, et je me dis que c'est quand même plus important de représenter tous les détails, faire des drapés en essayant de le faire le mieux possible et d'arriver à faire un drapé qui ressemble à un mantegna, et pour justement magnifier, en fait, ou donner de la dignité à des choses qui d'habitude sont considérées comme vulgaires, quoi, voilà. Et je trouve ça plus important que tout ce qu'on peut dire dans les débats esthétiques. Voilà, c'est une façon aussi de sortir un peu de l'esthétique pure, quoi, des débats purement formels qui sont quand même, qui dominent dans le champ de l'art, quoi.
Quand vous disiez tout à l'heure que dans cette exposition en ce moment dans la galerie Nathalie Obadia, vous avez séparé aussi un espace plus sombre d'un espace plus clair que celui qui nous accueille, pour en faire deux parties. Mais il y a des choses qui circulent. Je disais en introduction qu'il y a des corps qui nous retrouvent, quoi. Dans l'autre sens où nous retrouvons des corps. Et quand dans un premier tableau, on voit une silhouette, elle est très difficile à saisir par la vue, mais elle est très présente. Mais elle est petite, moi je me suis attardée dessus mais j'arrivais pas à l'attraper. Et je me suis fait surprendre quelques tableaux plus tard à la retrouver claire, existant d'une manière différente. Donc elle était passée d'un tableau à un autre, cette silhouette, et ça me racontait que plus qu'une circulation entre les tableaux, c'était aussi des circulations entre les mondes. Donc c'est pas si fermé que ça.
Non, c'est pas du tout fermé, il y a les deux en même temps, c'est toujours un peu contradictoire. En même temps, je sépare, mais c'est une façon de les lier par d'autres moyens, qui sont des moyens comme ça de composition, qui sont aussi empruntés au cinéma, dans une idée de séquence, de plan,
montage, en fait,
de montage,
presque.
Voilà. Il y a l'idée du montage, pour moi, qui est importante quand au moment de faire l'accrochage, quoi. C'est comme monter une séquence, quoi. Il y a quelque chose qui est un peu similaire. Et c'est aussi de... moi, mon utilisation d'un groupe de personnages ou d'un personnage, je vais le montrer sous une certaine lumière, dans un certain décor, et dans un autre, il va être dans un autre plan, plus dans l'obscurité. Donc il y a des niveaux de visibilité de différentes, et ça dit à chaque fois quelque chose de différent au niveau narratif. Mais
qu'est-ce qui préside au choix de les garder ? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites pas, bon, ce sera une autre femme, ou je vais peindre autre chose? Non, là, il y a vraiment quelque chose qui persiste, en fait.
Ouais, parce que c'est un désir que j'ai, et j'essaye pas de le rendre conscient, parce que je pense que c'est dangereux en peinture, figurative de trop savoir ce qu'on fait, de trop être dans une intention consciente. Et là, moi, si je fais des répétitions, c'est parce que j'ai envie. J'ai peint ce groupe-là, mais j'avais envie de le peindre aussi plus sombre. Ou alors, il marche bien au second plan d'une composition, alors qu'il est le sujet principal d'un autre tableau. Et du coup, moi, ça circule comme ça dans ma tête, quoi. Du coup, finalement, c'est comme ça qu'on le retrouve dans l'exposition. Après coup, je me rends compte que ça dit des choses aussi intéressantes que j'ai pas forcément contrôlées. Et j'aime bien laisser cette zone de sens qui est accidentelle quelque part, quoi.
Mais je me suis dit presque aussi des propositions d'imaginaire. C'est pour ça que je parlais de récit, c'est qu'ensuite, nous, on peut aussi raconter des histoires. Par exemple, on peut dire que cette femme qu'on voit apparaître dans cette sorte de restaurant de bord de route, quoi, ben, elle était peut-être il y a quelque temps, ou elle va aller peut-être quelque temps après dans une forêt enneigée qui ressemble à une sorte de frontière. C'est possible. C'est corps qu'on aperçoit.
Oui.
On peut se raconter ça.
C'est ça. Moi, je contrôle pas ce que le spectateur se raconte en voyant les tableaux. Juste, je propose des choses, je montre, et quand on regarde, on fait le lien soi-même entre les différents éléments.
Pourquoi je photographie des jeunes? C'est parce que dans les jeunes, c'est qu'il y a encore un changement possible, il y a de l'espoir. Il y a quelque chose qui est en train de... le monde vient à soi et on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on va l'aborder, comment est-ce qu'on va être des victimes ou simplement des acteurs de sa vie. Hein. Ça, c'est très important. Je pense que c'est plus difficile quand on a 60 ans, 70 ans, de remettre en question les fondamentaux qui nous entourent. Et dans la jeunesse, il y a l'idée de promesse. Une promesse à des idéaux, des promesses à faire vouloir changer les choses, en tout cas vouloir changer sa vie. Et moi j'aime bien ça. C'est-à-dire que ce n'est pas l'intellect qui va faire qu'on va défier la loi de gravité. Je pense à Ramet qui lui crée des images, enfin des chocs visuels où tout d'un coup son corps est mis en scène dans des situations improbables ou qui défient les lois de gravité, mais on se rend compte qu'il a recours à son intelligence pour, avec des prothèses, faire que son corps tienne dans le cadre. Là, c'est, je dirais autre chose, c'est l'énergie vitale qui se voudrait tellement révolutionnaire qu'on pourrait défier les lois de la gravité. Voilà, j'aime bien cette capacité, et ça c'est le propre de la jeunesse, de vouloir remettre en cause des choses qu'ils ne pensent pas encore universelles peut-être.
Regarde sous mon sang là, grenade.
Guillaume Gresson, juste avant Clara Luciani, on entendait Denis Arzac, ce photographe, parler de la raison pour laquelle il aimait tant photographier la jeunesse, et notamment des corps qui chutent. Ça dépend comment on les regarde, ou bien ils chutent, ou bien ils sont en lévitation. Et il aime à penser que la jeunesse est tant porteuse de pensées révolutionnaires, de forces révolutionnaires, qu'elle peut jusqu'à défier la loi de la gravité. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué très rapidement des photographies que vous avez faites de collégiens à la porte de Vanves pendant la récré. Qu'est-ce que vous reconnaissez, en dehors de la chute, on y reviendra sur ce motif-là, mais qu'est-ce que vous reconnaissez de votre attirance pour ces corps-là dans ce que dit Denis Darzac? Est-ce que vous diriez que pour vous aussi, la jeunesse, c'est la possibilité de remettre en cause un ordre établi?
Alors, pas vraiment. Moi, j'utilise leur énergie. À la base, j'ai travaillé avec des jeunes, mais parce que j'étais jeune. Donc, c'était mes amis. Et effectivement, un corps jeune, ça offre des possibilités plus nombreuses qu'un corps abîmé ou un corps plus âgé. Donc, ça m'a permis, pour moi, en tant que peintre, d'avoir des possibilités de composition, des gestuels très variés et puis très, très dynamiques. Et du coup, pouvoir faire des scènes de foule très agitées, des scènes de bagarre, des choses comme ça. Donc, ça, ça aurait pas pu être possible avec des gens d'un autre âge. J'ai travaillé avec des gens encore plus jeunes, qui sont des collégiens, entre 10 et 14 ans peut-être. Et donc là, ça, évidemment, ça fourmille de. Il y a des gestes qui partent de tous les côtés, qui c'est incontrôlable. Et du coup, moi, j'ai pris parti de ça pour ma séance de photo. En fait, c'était pas vraiment une récré, c'est moi qui ai reproduit les conditions d'une récré plutôt dans le gymnase du collège.
Et vous leur dites quoi?
Ben justement, alors on leur dit, on va faire une séance de photo, mais vous faites un peu ce que vous voulez. Et nous, on vous photographie, vous faites comme si vous étiez en récré, voilà, ou comme si vous étiez avec vos amis, comme ça, dehors. Alors au début, évidemment, ils sont un peu perplexes parce qu'ils pensent avoir affaire à des professionnels de la photo qui vont leur dire comment se tenir, qui vont les éclairer, alors que pas du tout. Donc il y a tout un moment de la séance de photo où il se passe rien du tout, et puis au bout d'un moment, voilà, ça devient plus aisé, et puis ils commencent à oublier que c'est une séance de photo, puis du coup ils font comme une récré. Et moi, c'est à ce moment-là que j'essaie de capter en fait leurs mouvements, comment ils se tiennent, qui est avec qui, comment, enfin. Évidemment, il y en a qui sortent leur ballon de foot, alors je prends des images de ça. Il y en a qui se mettent à danser, il y a des groupes qui se forment. Et moi, j'essaie de capter le plus d'informations possible. Et ensuite, avec avec toutes les photos que j'ai, je fais un choix et j'utilise certaines d'entre elles. Mais le thème de la jeunesse, je le travaille pas vraiment de façon consciente non plus, quoi.
C'est ces corps-là, parce que c'est des corps vifs, quoi.
Oui, et puis, mais parce que aussi j'ai eu l'opportunité de travailler avec eux à ce moment-là. Je pense que si ça avait, par exemple, j'ai travaillé dernièrement dans une EHPAD, et je trouve ça aussi intéressant parce que ça dit aussi beaucoup du monde social. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est ce que ça dit du monde social, parce que un jeune, même avec toute l'énergie révolutionnaire qu'il peut avoir, ce qu'il va pouvoir actualiser ou ce qu'il va pouvoir changer dans le monde, ça dépend beaucoup de son origine sociale. Et c'est ça que moi j'aime bien montrer aussi, que je trouve plus important presque de montrer que de parler de la jeunesse en général, de façon universelle, alors que finalement, il n'y a pas d'universel de la jeunesse, quoi. Enfin, c'est très conditionné socialement, les possibilités. Donc, j'ai toujours ça en tête, moi, qui vient me parasiter, mais...
C'est-à-dire vous parasiter. Bah,
disons que j'aimerais bien avoir une idée d'universel comme ça, de la jeunesse, c'est ça.
C'est tout aussi encombrant, hein, je pense.
Sûrement, ouais, non, mais mais seulement, je trouve que, enfin, moi, dans mon travail, c'est plus important de montrer le conditionnement, le résultat du conditionnement, ce que ça, tous les signes que je peux trouver la classe sociale, c'est presque plus important pour moi que l'âge du persona, enfin du
de la personne,
de la personne que je peins. Ouais.
Je pense par exemple là à l'instant à un tableau où sur le côté on imagine que c'est une femme et il y a deux petites baignoires. Elle est légèrement recouverte par un blouson matelassé rose et il y a quelque chose de la crise dans ce tableau-là. Il y a quelque chose de vraiment, les choses qui tournent mal, quoi. Les moments où c'est vraiment la grande, grande galère. Et je me suis dit, au-delà de ce qu'on a pu dire de votre travail sur un intérêt pour la violence, la bagarre, etc., en fait, je me dis, parfois, c'est peut-être plus le moment où ça bascule, quoi, qui vous intéresse, Guillaume Bresson. Moi, le moment de crise, pas forcément au sens hystérique et du cri, mais au sens de la crise du moment.
C'est vrai, et en même temps, ce que j'aime bien, ce qui m'intéresse à représenter dans ces scènes-là, c'est des relations. C'est-à-dire que s'il y a une violence qui apparaît quelque part, il y a des causes autre part, et c'est souvent lié à un environnement, comme je disais tout à l'heure, il y a le lieu où l'action est représentée, il est toujours déterminant par rapport à ça. Ça peut être une lumière violente, ça peut être un truc, et en général, je me pose pas trop la question de exactement quel moment je vais représenter. J'ai des images et il y en a que je trouve plus fortes que d'autres, et sûrement qu'il y a des raisons comme ça, mais j'essaye de pas les rendre conscientes.
Au contrario, c'est plutôt les choses qui se sont passées après ou autour ou en amont de la crise, en fait, contrairement à ce que je disais.
Ça dépend des tableaux. Il y a des tableaux où j'ai peint de la violence de façon très littérale, sur le moment. Après, évidemment, comme c'est d'après photo, c'est des instantanés. Donc, c'est juste un moment arrêté. C'est juste une petite partie d'une action. On peut pas, c'est très dur dans la peinture de faire une synthèse du mouvement par rapport à l'image en mouvement, on est quand même obligé de choisir un moment. Donc, il y a ça qui vient. Et c'est vrai que le moment juste avant ou juste après, il est souvent très tendu. Ça, d'utiliser ce type de moment-là, ça crée une tension dramatique qui peut-être m'attire plus que de montrer la chose comme ça au moment. Enfin.
Merci beaucoup, Guillaume Bresson. Votre travail est donc visible en ce moment à la galerie Nathalie Obadia à Paris. C'est jusqu'au 29 juin. Et l'entrée est libre.
Merci.
Take this for example, young brothers want rap, cause in the life they're living, you can't have step. It starts with the young ones doing crowds for fun, and if you ain't down, you'll get played out, son. So let's get a car you know I fly with, get a dent, pull a screwdriver, and be off quick with the dope ride, yeah, and a rowdy crew. We could bag us a Benz and an Audi too, even a Jeep or van. Goddamn, we're getting ours, yo. Take a trip up the strip and be like stars, so it doesn't matter if the cops be scoping.
À la prise de son ce soir, c'était Alexandre Dang. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Un grand merci à Jeanne Aléos, Valentin Rémy, Marianne Chassor, Romain Debec de Lièvre et Luque Vauvillier qui mettent à penser cette émission tous les jours. Dans un instant, c'est le journal sur France Culture, 22h. Et quand vous voulez, franceculture.fr à la page de Parler Temps qui court, la référence de tout. I'll organize some brothers and get crazy loot, selling D-R-U-G-S's and clocking dollars true. Cause the fact though, yo, that suits me fine. I gotta have it so I can leave behind the mad poverty, never have it, always needed. If a sucker steps up, then I leave him bleeding. I gotta get mine, I can't take no shorts. And while I'm selling, here's a flash report. Organized crime, they get theirs on the down low. Here's the ticket, wanna bet on a horse show? You got to be a pro, do what you know. When you're dealing with the code of the streets. Nine times out of ten I win. With the skills I be wielding, got the tenth one kneeling. Let me express my feelings. Cool has never been one to play a big shot. It's just the styles I got that keep my mic hot. And turning my back to the street scene, it gives me energy, so I'ma keep fiends coming just to get what I'm selling. Maybe criminal or felon, dropping gems on your melon. So keep abreast to the gangsta conquest, underground roughnecks, pounds of respect. I've never been afraid to let loose my speech. My brothers know I kick the code up the streets.